Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu et je proclame hardiment. Mon esprit est ouvert, mon intelligence est réceptive, mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais. Au nom de Jésus. Voilà, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans Genèse 26 et qui nous parle de Isaac. Et il est vraiment d'actualité, une fois de plus j'insiste chaque fois que j'en parle, que ces vieux textes sont d'actualité. Toutes ces choses qu'ont vécu ces gens, c'est les mêmes choses que nous vivons au quotidien. Dans d'autres contextes peut-être par rapport à la vie moderne, mais les réalités sont les mêmes. J'aimerais voir avec vous aussi à quel point les solutions que Dieu leur a fait trouver sont aussi des solutions pour nous, dans beaucoup de questions qu'on se pose. Nous commençons le premier verset dans Genèse 26. « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. » Et donc Isaac alla vers Abimélech, roi des Philistins, à Guérar. Il y eut une famine dans le pays. Une famine, ça veut dire un temps de pénurie, de crise, de manque, de toutes ces choses dont on parle tout le temps autour de nous. On parle tout le temps qu'il y a une famine de beaucoup de choses. On dit les ressources sont pas assez, on parle du pétrole, alors on parle du pétrole. Combien de temps est-ce qu'on aura encore du pétrole? Alors, ils font des estimations. Après, ils retrouvent de nouveau un peu de pétrole quelque part. Et puis, alors, finalement, ça ne nous parle pas beaucoup. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. La seule chose qu'on retient, c'est l'impression générale. C'est-à-dire, plus longtemps, pénurie, crise, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est tout ce qu'on en retient. Autre exemple, alors nous sommes très sensibles aussi à la nature, à tout ce que Dieu a créé. Alors on entend par exemple les problèmes des abeilles, la pollinisation. Elles disparaissent à cause des pesticides. Qu'est-ce qu'on fait? Bientôt on n'aura plus des fruits, des légumes qui auront bon goût, qui seront naturels, tout sera fabriqué. Et on parle des complots des grandes multinationales qui veulent garder les mains mises sur les semences et le commerce et tout ça. Donc, une fois de plus, nous ne savons pas exactement quelle est la réalité des chiffres. On se rend juste compte qu'il se passe quelque chose et l'impression générale, c'est de nouveau, on va vers quelque chose qu'on ne peut pas contrôler et qui va nous poser des problèmes à terme pour nous-mêmes et au-delà pour l'humanité tout entière. Donc ça, c'est un contexte général, vous êtes d'accord, qui n'est pas du tout positif. Donc on le transpose au niveau, avec toutes ces impressions négatives accumulées, on vous parle de la population de la terre, on est trop nombreux, il n'y a plus assez pour tout le monde, et donc finalement ça crée une situation où chacun d'entre nous, soit on dit, bon bah pour moi ça va bien, puis tant pis pour le reste, ou alors ça tiendra encore le temps que tu sois sur terre, et puis après on ne sait pas ce qui va être, donc soit c'est ça, soit c'est cette impression générale pèse sur nous, et fait que nous aussi, on commence à baisser les bras, à dire « mince, on peut rien faire, ça a l'air de ne pas marcher comme ça ». Et donc, le contexte économique nous pousse à finalement être déprimés et de se rendre compte que ce qu'on veut nous faire croire, c'est « il n'y a pas assez pour tous ». Alors, certaines voix s'élèvent de « il faut plus partager ». Il y a des richesses, mais il faut les partager. Mais vous vous rendez compte, c'est simple. Si vous avez un gâteau, plus vous êtes nombreux, plus les parts seront petites. Donc, il y a deux principes. Soit on multiplie, on fait plus de gâteaux, ou alors les parts seront petites. Donc, est-ce qu'il faut partager ou créer des richesses, ou les deux? L'idée principale pour nous, en tant que chrétiens, c'est de se dire, nous ne pouvons pas imaginer que Dieu a créé la planète Terre spécialement pour l'être humain, qu'il nous a mis dessus et qu'il n'ait pas pensé à la survie de la race humaine. Il a prévu des choses. Donc, le fait de constamment être négatif dans sa tête, se dire ça ne va pas, c'est la crise, etc., il n'y a pas assez, c'est une façon, une fois de plus, de se révolter contre Dieu lui-même. De dire, mais pourquoi tu nous as mis, toi, dans cette situation? Donc, pour certaines choses, c'est pas lui qui nous met dans des situations, c'est nous-mêmes. Mais il n'y a pas besoin à chaque fois de se juger, de dire, si ça m'est arrivé, c'est à cause de ceci, cela que j'ai fait. Non, il y a des fois simplement les circonstances. Quand il y eut une famine dans le pays, ils n'ont pas fait comme on fait maintenant. Dès qu'il se passe quelque chose, on veut chercher le coupable. Qui était responsable? C'est l'idée du bouc émissaire. Une fois qu'on l'a trouvé, on peut le montrer du doigt, et comme ça, nous, on n'est pas culpabilisé, mais ça ne résout rien. Mais actuellement, nous sommes dans cette situation. Là, quand il y avait une situation de famine, c'était un état de fait. C'était comme ça. C'est-à-dire, dans certaines peuplades, on se pose des questions, est-ce que on a fâché les dieux qui, d'une certaine façon, font tomber des punitions, des châtiments sur nous, etc. Mais, je voudrais dire tout de suite que nous allons voir comment Isaac a réagi dans une situation de famine, que malgré les circonstances, Dieu est avec lui. Verset 2, l'Éternel lui apparut. Il y a une situation de famine, vous êtes dans une situation de crise, mais Dieu veut vous parler. Premièrement, il lui apparaît, il vous apparaît, il peut vous apparaître sous la forme d'une pensée, d'une prière, d'une parole, de toutes sortes de situations, des circonstances, quelqu'un qui vous est favorable, quelqu'un qui vous aide, et l'Éternel lui donne des directives. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Donc une direction. Ne descends pas en Égypte. L'Égypte représente un système diabolique, esclavagisme. D'accord? Les pharaons ont montré la façon dont ils géraient le peuple. Et Dieu dit, ne va pas te mettre dans cette situation. Ne te rends pas esclave du système de ce monde. Mais laisse-toi conduire par moi. Il le conduit et il dit, séjourne dans ce pays-ci et je serai avec toi. Alors ça peut paraître étrange, verset 3, séjourne dans ce pays. Mais ce pays, il y a la famine. Pourquoi je dois demeurer ici? Alors peut-être on entend qu'en Égypte, ça va mieux. Et souvent les gens se laissent conduire de cette façon. Mais des fois, il y a des situations où Dieu, quand il nous parle, ça ne semble pas raisonnable sur le moment. Mais séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Donc je serai avec toi, je vais te bénir, même si pour le moment, on va dire comme ça, ça te semble bizarre, ça te semble pas raisonnable. Et chez vous, c'est pareil. Vous avez un objectif, vous avez un défi, que ce soit professionnel, santé, relationnel ou autre. Et des fois, on a l'impression que ça va aller mieux si je vais fuir. Je vais aller ailleurs. Je quitte mon job, ça sera mieux ailleurs. Dans le monde, ça, bien sûr, nous n'en parlons pas ici parce que nous ne croyons pas à ça. Mais dans le monde, on dit, bon, ben, tu quittes le conjoint parce que votre relation est plus bonne, etc. Et puis, tu vas construire une meilleure relation avec quelqu'un d'autre. Donc, on quitte, on fuit, on essaye encore. Mais ici, déjà, on voit quelque chose de la nature de Dieu, c'est que dans la difficulté, on n'abandonne pas. On se cramponne aux choses que Dieu a dites, pas aux erreurs que nous avons faites. Quand vous faites erreur, il ne s'agit pas de dire, il faut que je persévère, il faut que je reste. Et finalement, c'est pas en persévérant qu'on va réussir, peut-être. Parce que si vous êtes dans l'erreur, il faut simplement corriger. Mais là, c'est différent. Dieu a donné des instructions. Je serai avec toi, une promesse. Déjà, ça fait du bien. Des fois, on a l'impression qu'on se sent seul. On cherche du secours. Mais il dit, mais je suis là. Oui, mais j'aimerais un autre secours, quelque chose de plus tangible, palpable, concret. On a l'impression qu'une aide humaine, ça serait mieux qu'une aide de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a encore rien compris. D'accord? Quand on a lui, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Mais on voudrait le voir, on voudrait le toucher, etc. Et Dieu nous aide au travers de quelqu'un. Mais d'abord, chacun de nous doit être dans certaines situations, se rendre compte qu'on est seul, jusqu'au moment où cette solitude nous pousse à chercher Dieu. À ce moment-là, on réalise, mais il a toujours été là. Il a toujours été là, mais nous, on ne l'a pas vu. Et on a cherché à droite, à gauche. Je te bénirai. Je te bénirai car. Car, ça veut dire qu'il y a une raison pour la bénédiction. Parce qu'il y a une promesse. Dieu a fait un serment. Si Dieu fait un serment, alors ça veut dire que c'est quelque chose qui est établi. Il ne va pas mentir, heureusement. Si Dieu commençait à mentir, alors là, on aurait des problèmes. On a déjà le diable qui est le père des mensonges. La plupart du temps, on croit ce que le diable dit, mais on a des doutes par rapport à ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'on est confus. Mais donc, les doutes, il faut savoir les identifier. D'où viennent-ils ? Ben, ce que je disais, il n'y a pas assez pour tous. Dieu n'a pas prévu. L'humanité ne s'en sortira pas. Tout est en train de périr. Il y a déjà une promesse pour de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Même si nous avons de la peine pour les abeilles, je ne le dis pas de façon de rire, c'est triste qu'on détruise la nature telle que Dieu l'a fait, mais nous n'allons pas focaliser maintenant sur tel ou tel aspect de la nature qui est en train de disparaître. Nous allons focaliser sur le fait que Dieu qui a créé ce monde merveilleux, que le péché, le diable et la trahison humaine ont détruit, eh bien, il va en faire des nouveaux cieux et une nouvelle terre pour que nous puissions y vivre chacun d'entre nous. Donc, il y a des promesses. Nous avons dit que Dieu a fait des serments, un certain nombre, au travers de la Bible. Il en a fait un par rapport à Abraham, et nous sommes encore concernés par Abraham, bien que nous ne soyons pas juifs, bien que des milliers d'années se soient passées. Parce que Abraham est le père des croyants. Et selon Galates 3, il nous est dit que nous sommes aussi bénis par la foi d'Abraham. Et donc, les promesses de prospérité et de bénédiction, elles sont toujours valables. Et c'est pas parce que certaines personnes ont abusé d'autres gens par la parole de Dieu, certains se sont mal comportés à l'égard de l'argent, des richesses, que nous allons rayer de notre Bible maintenant toutes les promesses et les encouragements pour nous de prospérer. 3 Jean 2, Dieu souhaite, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Oui, la bonne santé aussi. Nous ne croyons pas en Alzheimer, ni en Parkinson, ni en toutes ces maladies de dégénérescence. Nous croyons aux promesses de Dieu. Même si, là encore, c'est une réalité. Il y en a de plus en plus, de toutes sortes. Il y a de plus en plus de cancers, il y a de plus en plus de maladies de toutes sortes. Mais la promesse de Dieu ne change pas. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. J'ai pris mes résolutions du nouvel an, j'ai déjà prêché sur les résolutions, de rester attaché à ça, et ce ne sont pas des résolutions selon la chair, comme disait l'apôtre Paul, mais que dans notre esprit, nous sentions plus que jamais, il est temps de nourrir notre esprit de la parole vivante de Dieu. Et les promesses sont là, qu'ils ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Jour et nuit. Quand vous réveillez, quand vous avez un souci, quand vous avez un doute, une parole de Dieu vient, je la médite, je la déclare encore. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, pour réussir dans tes entreprises. Et l'entreprise, c'est au pluriel. Ça veut dire que notre vie aussi, elle est plurielle. Elle n'est pas juste unique. On dit des fois, il est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc. Dans un domaine, vous avez peut-être des difficultés, mais dans d'autres domaines, vous êtes en train de réussir. Ça vous permet d'avoir un équilibre psychologique. Sinon, vous allez focaliser que sur un domaine, vous dire, il n'y a rien qui marche dans ma vie. Non, c'est pas vrai. Il y a d'autres choses qui marchent. Et donc, il y a des endroits où le combat est plus dur, mais il y en a d'autres où ça marche. Donc, vous aurez des entreprises et le fait de réussir dans certaines choses, même des petites choses, vous permet d'avoir plus de confiance en vous pour d'autres aussi. Et toujours ces mêmes principes. Donc, avec cette introduction du contexte, voyons qu'il y a une opposition. Encore, je prends des versets que vous avez tellement entendu. Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il veut dérober, égorger, détruire. Il l'a toujours fait et il le fait encore. Dès que vous avez quelque chose, il est aux aguets pour se jeter dessus et pour vous le reprendre. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Donc l'opposition. Eh bien maintenant, nous allons voir dans Genèse 26 le combat d'Isaac. Je continue ma petite lecture, après on ira un peu plus loin. Donc il lui dit, séjourne dans ce pays, verset 3, je serai avec toi, je te bénirai, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac est resté à Guérar. Guérar n'était pas encore la terre promise. Voyez que géographiquement, ils étaient à l'endroit que Dieu avait promis. Mais rien n'avait changé dans le contexte. C'était pas encore la terre promise telle qu'on peut l'imaginer. Parce que pour le moment, c'était qu'une famille, la famille d'Isaac, avec quelques personnes, quelques serviteurs, oui, c'est vrai. Mais ils n'étaient pas encore une grande nation qui dominait sur le peuple. On ne voyait rien de la réalité, de la promesse de Dieu. On les voyait juste une famille avec un groupe de personnes au milieu des Philistins. C'est ça l'image. Et pour nous, c'est pareil. Même si nous aimerions la France pour Jésus, même si nous aimerions la francophonie pour Jésus et le monde pour Jésus, la réalité, c'est que nous sommes sur la planète Terre, dans une Terre occupée par l'ennemi, et nous sommes juste un groupe de personnes, même si on est des millions de chrétiens dans le monde, occupés à résister à l'ennemi et au destructeur. Voilà la réalité. Mais Dieu dit, au milieu de cette famine, au milieu de cette crise, je suis avec toi et je te bénirai à cause d'Abraham. Voilà ce que nous sommes en train d'expérimenter. Je passe sur l'histoire de Isaac et Rebecca et nous passons au verset 12. Voilà ce que Isaac fait. Nous disons, il est bon d'écouter la parole de Dieu, de prier, d'être ensemble, mais à un moment, on a dit, il faut passer à l'action. Tout à l'heure, nous avons lu la lettre du pasteur Yves Gravet, et donc il a dit, il y a des choses qui se font au Togo. Il y a des gens qui ont faim et soif de la parole, et en même temps, nous avons entendu parler d'un village où il n'y a ni eau ni électricité. Nous avons entendu parler d'un puits qui a besoin d'être remis en état. Et ici, nous lisons plusieurs choses. Isaac sema dans ce pays, voyez votre pays, pas la France forcément. Le pays, ça peut être le domaine dans lequel vous voulez voir la main de Dieu se manifester. Votre domaine. Pour des étudiants, ça peut être une chose précise dans les études, une matière où c'est difficile. C'est ça la crise, elle n'est pas là où c'est facile pour nous. Une matière où c'est difficile. Une personne avec qui j'ai du mal à communiquer. Une personne qui peut-être s'oppose à ce que je fais. Donc, focalisez sur vous semez là où il y a un besoin. Il sema dans ce pays, dans la famine, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et il nous a dit, cette année, ça veut dire que des fois on dit, si tu persévères longtemps et beaucoup, un jour Dieu va te donner, etc. Non, à un moment la limite est fixée. Vous pouvez exercer votre foi, la foi c'est maintenant. De dire c'est maintenant, c'est cette année, ou dans ce délai que j'obtiendrai quelque chose. Rappelez qu'à un moment donné, la discussion entre Pharaon et Moïse, et il avait dit à Pharaon, eh bien, toi-même tu peux déterminer le jour de la délivrance pour l'Égypte, et alors la plaie va cesser. Pharaon a dit demain. Il aurait pu dire aujourd'hui. Non, il voulait encore, je crois que c'était avec les grenouilles, hein. Et il a dit non, je voudrais que mon peuple ait encore des grenouilles pendant au moins toute une journée. Non. Il faut se débarrasser des grenouilles le plus vite possible. C'est ça l'objectif. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Là, notre imagination est en train de s'emballer un petit peu. On dit, qu'est-ce que ça peut être fort riche? Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent-ils envie? Quelqu'un a dit une fois, il vaut mieux faire envie que pitié. Donc, c'est important que nous voyons que dans cette crise, dans cette situation difficile, Isaac a agi. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les situations de crise? On dit, il n'y a pas assez, je ne peux pas me permettre de faire une semence. Je ne peux pas faire d'offrande, je ne peux pas donner, je ne peux pas payer ma dîme, je ne peux rien faire. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On mange sa semence. Mais Ça veut dire qu'on hypothèque son avenir. Aucune personne sensée ne peut croire qu'en mangeant sa semence de cette année, il y aura une moisson l'année prochaine. Ce n'est pas possible. D'accord ? Mais c'est la pauvreté à tous égards qui nous fait agir comme ça. Parce que le pauvre n'a pas de vision d'avenir. Il n'y a rien pour lui. Il voit rien. Il voit juste la survie. Jésus n'a pas dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la survie. » Et je suis venu afin qu'elles aient la vie, et la vie en abondance, ça veut dire une vie qui va plus loin que ça. Verset 15, « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimélec dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là, campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps de son père d'Abraham et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc Isaac a agi. Il a creusé des puits, il a semé des semences. Nous aussi, on veut creuser des puits pour qu'il y ait de nouveau l'eau vive qui coule comme avant. L'eau, elle est toujours là, en dessous. Vous voyez, la famine, elle est au-dessus. La famine, elle est au-dessus, comme dans notre vie. Les choses extérieures, les choses superficielles. Mais l'abondance, elle est à l'intérieur. La vie de Dieu est toujours la même. Et l'action de Dieu peut toujours être de même nature. Mais il faut qu'on creuse les puits de nouveau. Comme dans ces pays, nous parlions tout à l'heure du Togo, de ce que Dieu est en train d'y faire. Il y a un puits à recreuser. Le puits, à un moment donné, il a été creusé, et puis quand on ne l'entretient pas, ou comme ici, pire encore, l'ennemi s'en mêle pour le combler de poussière, alors au bout d'un moment, d'abord il y a la boue, et puis après il n'y a plus rien qui coule. Donc le puits doit être recreusé pour que l'eau puisse de nouveau jaillir des profondeurs. Et il doit être busé. Donc busé, ça veut dire qu'on consolide certains aspects du puits pour qu'il n'y ait pas tout qui s'écroule, et donc que certaines conduits soient propres pour que l'eau puisse couler. Il est d'ailleurs impressionnant de voir que ce n'est pas maintenant pour développer une haine contre ce peuple des Philistins, mais il représente ici l'action de l'ennemi typique. Les Philistins, ils sont jaloux de la bénédiction de Dieu sur Isaac, mais eux, ils n'en profitent pas. Mais au contraire, ils détruisent l'action des serviteurs d'Abraham. Les serviteurs d'Abraham ont apporté la prospérité dans un endroit où c'était sec, où il n'y a rien qui se passait. Et ils ont transformé cet endroit, ils ont fait en sorte que la vie et l'abondance puissent se développer. Et à cause de la jalousie, donc typiquement un sentiment humain négatif, jalousie c'est quand d'autres ont ce que je pense mériter, ils ont détruit les puits, ils ont privé Isaac d'en profiter, mais eux-mêmes aussi n'en ont pas profité. Là, on voit typiquement l'action du destructeur. Donc, l'ennemi se manifeste. Mais Isaac ne se laisse pas décourager. C'est pas parce qu'ils ont comblé les anciens puits. Isaac, il creuse de nouveau les puits d'eau. Donc, Isaac ne vit pas sur les réserves spirituelles de son père. Abraham a été un homme de foi. Il a vécu des choses avec Dieu. Il a vécu des choses difficiles, mais aussi des choses glorieuses, la prospérité. Il a connu certains aspects où il a vu la promesse de Dieu se réaliser. Mais Isaac n'a pas été héritier automatiquement et facilement de tout ce que son père avait fait. Il fallait que lui-même de nouveau refasse certaines choses, comme par exemple entendre la voix de Dieu. Il fallait qu'il se mette en action, il fallait qu'il fasse aussi des semences, il fallait qu'il creuse lui-même de nouveau les puits d'eau. Pour vous, c'est pareil. Si vous êtes enfant ou jeune, vous avez reçu un héritage spirituel de personnes qui ont été vos parents naturels ou des parents spirituels qui ont prié pour vous, qui vous ont encouragé, qui vous ont aidé de toutes sortes de façons, ces gens ont peut-être été un modèle pendant un temps, mais à un moment donné, vous ne pouvez plus vivre sur la foi des autres. Il faut recreuser vos propres puits. Il faut refaire votre propre alliance avec Dieu. Il faut redécouvrir ce que vous pouvez faire pour que les choses changent autour de vous. Les serviteurs d'Isaac, verset 19, creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Eau vive. Donc il y a une différence entre de l'eau, on pourrait dire, qui est sous la terre, sous forme de nappe phréatique. Si vous creusez, au bout d'un moment, l'eau va venir, d'accord? Mais là, l'eau vive, c'est, il y a une pression, c'est jaillissant, c'est plus encore, c'est encore mieux. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Alors eux, ils font le travail et ensuite les autres viennent en disant « C'est à nous ». Ils veulent s'en accaparer. Alors, il ne faut pas des fois baisser les bras en disant « Bon, bah oui, d'accord, tu as raison ». Non, alors, il y a eu querelle, il y a eu une bagarre pour dire « Non, c'est à nous, c'est nous qui l'avons creusé ». Mais à cause de ça, on a donné au puits le nom d'Ézec, un nom qui veut dire « dispute », littéralement. Mais parce qu'il s'était disputé avec lui. Alors, visiblement, verset 21 nous dit « Ses serviteurs creusèrent un autre puits ». Peut-être, ils n'ont pas eu le dessus, les bergers d'Isaac, parce que là, en face, il y avait trop de pression, il y avait trop de monde, c'était pas possible. Donc, il y a des situations où on peut se retirer, sachant que Dieu pourra bénir de nouveau d'une autre façon ou un autre endroit. Ils ont encore creusé et d'un nouveau, Dieu a béni. Alors l'autre puits, on chercha aussi querelle, on l'appelait Sitna. Ça veut dire que partout où vous allez, on peut dire l'ennemi est en train de vous suivre pour chaque fois vous prendre ce que Dieu vous donne. Vous direz, c'est un peu fatigant. Oui, mais c'est comme ça. C'est une guerre de... comment dire? Il cherche constamment à opprimer, à nous suivre partout. Ça me fait penser à l'apôtre Paul. Partout il établissait des églises, il y avait des gens qui... par la suite chercher à venir pour détruire son travail. Donc il nous faut être sur nos gardes, mais il nous est dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et on l'appela Rehoboth. Ça veut dire qu'à un moment donné, à force de persévérance, de continuer encore, il y a une lassitude qui s'installe dans le camp adverse. Un peu comme Jésus a résisté aux tentations une fois, deux fois, trois fois, à la troisième le diable le laissa. C'est lui qui s'est découragé. Souvent, c'est nous qui nous décourageons, mais à un moment, c'est lui qui s'est découragé. Et maintenant, dit Isaac, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. À cause de cette victoire, à la quatrième fois, il dit, ça y est, maintenant, ça va marcher. Et il le dit, ça vous évoque quelque chose, il commence à dire, nous allons prospérer dans le pays. C'est passé du temps entre Isaac sème dans la famine. D'abord, la famine est là. On se pose la question, est-ce qu'on va fuir en Égypte? Dieu dit non, reste sur place. La famine est toujours là. On sème dans la famine. Pour le moment, rien ne se passe. Ensuite, il y a déjà une prospérité, mais il faut les puits aussi pour entretenir tous ces troupeaux et toutes ces semences et tout cela. Et donc l'ennemi poursuit jusqu'au moment où il y a une libération. Et il dit maintenant, nous allons prospérer dans le pays. Il remonte de là à Beersheba, l'Éternel lui apparaît dans la nuit. Dieu avait dit qu'il était avec lui, mais il n'avait pas tous les jours une vision de Dieu. Il n'avait pas tous les jours des paroles et des prophéties. Donc, il faut des fois tenir sur la parole reçue. Mais là, Dieu dit nouvelle parole, et il se révèle de nouveau. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Et là, il bâtit un autel. Isaac a bâti un autel. Il a mis quelque chose en place. Il a dit, voilà, ça c'est l'endroit de la victoire maintenant. Je suis là et je construis un autel. Ça représente ma relation avec Dieu. C'est là, c'est mon endroit de prière, mon endroit d'adoration, l'endroit où j'apporte les offrandes et sacrifices. Et il y dressa sa tente, même si ce n'est pas une demeure permanente. C'est quand même un endroit où il s'est installé. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. C'est vraiment une habitude chez eux. Et ça devrait être une habitude chez nous. Chaque fois qu'il y a un besoin, on creuse. On creuse de nouveau. On creuse dans la parole, on creuse dans nos relations avec Dieu pour recevoir l'eau vive, des paroles fraîches. Moi, j'ai pas envie de boire de l'eau vieille, croupie. On sait pas depuis combien de temps c'est là. Nous, on se déplace beaucoup des fois avec des bouteilles plastiques, mais quand elle est fraîche, c'est bien. Mais quand ça fait plusieurs jours qu'on ne sait pas trop, ça prend un goût, d'accord? C'est peut-être mieux que rien, mais Donc, les serviteurs d'Isaac savent creuser des puits. Ça fait partie de leur travail. Systématiquement, on creuse un puits. Et voilà, les ennemis qui étaient jaloux, maintenant, ils viennent et ils se disent, rien à faire. On a tellement essayé de nuire à Isaac, mais on voit que Dieu est avec lui. Donc, ils reconnaissent maintenant que Dieu l'a béni. Et Isaac, il n'est pas dit qu'il est content et heureux qu'ils arrivent. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Je traduis. Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Ils préfèrent maintenant être alliés qu'opposés à Isaac, parce qu'ils voient la bénédiction de Dieu. Et il commence à avoir de la crainte. Jure que tu ne feras aucun mal. Je vous rappelle que nous avons tout un pays avec un roi, un chef de l'armée. De l'autre côté, nous avons un groupe de nomades et de bergers avec leurs serviteurs. D'accord? Et donc maintenant, ils ont l'impression que ces gens sont dangereux. C'est un petit peu pareil pour nous. Nous n'avons pas le dessus. Nous ne sommes pas en position de force économiquement, politiquement et socialement, mais à un moment donné, des gens peuvent voir que Dieu est avec nous. Ils rechercheront notre faveur, c'est ce que nous voulons. Et alors nous pourrons leur annoncer la grâce de Dieu. Jure que tu ne feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous ne t'avons fait seulement du bien, que nous t'avons laissé partir en paix. Ah bon? Il y a une façon de tourner les choses et de montrer les faits sous une certaine forme. Ils l'ont chassé, ils n'en voulaient plus, ils l'ont fait partir. Il nous est dit, va-t'en de chez nous, tu es beaucoup plus puissant que nous, au verset 16, et maintenant, c'est présenté d'une autre façon. Nous t'avons laissé en paix, nous t'avons laissé partir, nous ne t'avons fait aucun mal. Vous voyez, c'est un petit peu... mais dans la diplomatie, il faut des fois arranger les phrases pour que ça passe mieux. Mais nous voyons, tu es maintenant béni de l'Éternel. C'est grâce à nous que tu es béni, parce qu'on a été gentil avec toi. Isaac, il est trop bon Isaac, au verset 30, il leur fait un festin, et ils mangent et boivent. Et quand je dis trop bon, en fait, c'est une façon visionnaire de voir les choses. Celui qui régale et qui invite, c'est celui qui a les moyens. Et il nous est dit dans les proverbes, il est dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Et tu vas amasser des charbons ardents, ça veut dire que Dieu va voir cette attitude. Et si ensuite il te trahit, Dieu va lui-même être ton vengeur. C'est lui qui va s'occuper de toi. Mais toi, tu auras eu une bonne attitude. Ils se levèrent de bon matin, se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir. Cette fois-ci, c'est lui qui les laisse partir. Et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait. Ils dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Sheba. C'est pourquoi l'on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour, qui signifie serment. C'est-à-dire ce même jour, c'est comme si Dieu avait encore une fois approuvé tout ce que Isaac avait fait en disant, il a béni ce jour même. Il a béni le fait que Isaac a eu la bonne attitude et il a fait ce qu'il fallait. Donc, au travers de ça, nous voyons cette vision d'Isaac, cette persévérance au travers de ses serviteurs qui creusent encore et encore. Et finalement, nous avons le point culminant pour moi de cette histoire, c'est qu'il bâtit un hôtel. Construisez votre hôtel. S'il est un peu abîmé, s'il n'est plus trop fonctionnel, remettez-le en état. Des fois, vous savez, ils assemblaient quelques pierres et ça représentait un hôtel. Et donc, des fois, avec le temps, peut-être l'une ou l'autre pierre n'était plus en place, ou il n'y avait plus de sacrifice offert. À un moment donné, il fallait remettre les pierres en place. Des fois, on versait de l'huile pour consacrer l'endroit à nouveau. Donc, dans votre vie, vous avez peut-être besoin de ça aussi. On rebâtit l'autel et l'approbation de Dieu vient sur votre vie et il se trouve que vous êtes à ce moment-là plus riche que ceux qui sont autour de vous. C'est ce que je vous souhaite, que vous soyez conscient de ça. Vous êtes riche et vous avez des choses à donner, des choses à partager. Peut-être votre compte en banque n'est pas ce que vous aimeriez qu'il soit, Mais alors, comme j'ai dit, il y a d'autres situations, d'autres choses pour lesquelles nous pouvons nous battre, où nous pouvons manifester la richesse de Dieu. L'un n'exclut pas l'autre. Mais je veux juste vous faire prendre conscience de cette richesse qui est en chacun d'entre nous. Et c'est pas pour faire une astuce pour dire les richesses spirituelles sont plus importantes que les richesses matérielles. Non, on ne peut pas vivre des richesses spirituelles si elles se manifestent pas ici et maintenant, parce que ça ne va pas nous nourrir. Mais dans l'Ecclésiaste, il est dit quelque chose d'intéressant concernant la sagesse. Et je voudrais lire dans l'Ecclésiaste au chapitre 9. Au chapitre 9, verset 14. « Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle et l'investit, et il éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » L'homme pauvre, il avait la sagesse, mais personne ne se souvient de lui. Parce que les gens se souviennent des gens riches, des gens influents, des gens qu'on voit partout, dans des positions, les superstars, etc. Mais ici, la parole de Dieu révèle quelque chose. Que si un homme est pauvre et méprisé, néanmoins parce qu'il est riche pour Dieu et qu'en lui il y a une grande sagesse, cette sagesse est manifestée de façon à sauver une ville entière. Et alors, la conclusion ici, c'est « J'ai dit la sagesse vaut mieux que la force ». Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages, tranquillement écoutées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Un seul pécheur, et on a vu comme les ennemis de Dieu, les ennemis du peuple de Dieu, détruisaient systématiquement les puits. Ils n'apportent pas de prospérité. La prospérité, le bien, vient de ceux qui suivent Dieu. C'est eux qui enrichissent la terre, à tous égards. Les autres, qui sont coupables d'être complices avec le destructeur, ils montrent la nature de leurs œuvres. Et on pourrait parler encore longtemps d'un certain nombre de choses. Je pense aussi à celui qui avait dit « Mon âme, tu peux te reposer, mange, bois, repose-toi, car tu as beaucoup de biens. » Et un reproche lui est adressé en disant « Mais tu n'es pas riche pour Dieu. Tu as amassé beaucoup de choses, mais tu n'es pas riche pour Dieu. Donc, soyez riche pour Dieu. » Et notre conclusion, on la trouvera dans 2 Corinthiens 8. Nous allons fixer nos regards sur le Seigneur Jésus et de son œuvre, lui. 2 Corinthiens 8, verset 9. « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous la connaissez ? Tout le monde la connaît ? On n'a pas sondé encore entièrement, mais vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous la connaissez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il, pour vous, chacun dit pour moi, il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. Et nous savons que quand on veut vraiment étudier un texte de la Bible et voir toutes les implications, il faut regarder le contexte, d'accord ? Je ne pourrais pas prendre ce texte hors de son contexte pour dire n'importe quoi. Mais c'est dans un contexte de bien matériel. Jésus s'est fait pauvre. Comment s'est manifestée sa pauvreté ? Ben, il était Dieu, fils de Dieu, tout puissant, omniprésent, omnipotent, omniscient. Et il est venu sur terre, simple homme. Est-ce qu'il était pauvre spirituellement ? Ben non, il n'était pas pauvre. Il avait hérité de son père. Est-ce qu'il était riche comme les rois ? Non, pas vraiment. Mais la richesse qu'il avait, c'était, il ne manquait de rien. Mais il n'avait pas de richesse matérielle dans le sens accumuler des richesses. Par contre, dans n'importe quelle situation, il savait invoquer son Dieu et Père. Et donc, il s'est fait pauvre, on pourrait dire pauvre comme nous, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous, on soit enrichis. Nous avons maintenant en nous une source de vie que Jésus a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance, pour que cette abondance se manifeste. » Moi, je désire pour chacun de vous qu'il y ait plus d'abondance qui se manifeste, à tous égards. Ne limitez aucun domaine. Ne focalisez pas là où le diable vous a entraîné dans son arène. Il veut vous combattre sur son terrain. Et là, souvent, il prend l'avantage. Mais vous pouvez développer la vie de Dieu à tous égards. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Amen. Alors, je vous invite à vous lever et nous allons rendre grâce à Dieu. Et on a dit de fixer un temps. Fixer un temps, on a dit cette année, pour certaines choses, vous n'avez pas besoin d'attendre que l'année 2013 soit écoulée. Mais il y a des choses, c'est pour aujourd'hui. Le Seigneur a dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alors, si vous avez besoin d'une délivrance, si vous avez besoin d'un secours, si vous avez besoin d'un exaucement, nous allons croire pour aujourd'hui. Seigneur, quel privilège pour chacun d'entre nous de pouvoir nous tenir ici en ce moment. Nous sommes là rassemblés dans le nom de Jésus. Nous avons une promesse que tu es avec nous. Nous avons le nom de Jésus qui nous permet de nous adresser à toi, Père Céleste, selon ta parole. Merci parce que chacun de nous peut s'approcher librement du trône de la grâce. C'est un endroit où nous pouvons aller dans ta présence. C'est là qu'il y a le secours. C'est là qu'il y a tout selon nos besoins. Et nous n'allons pas focaliser maintenant sur le besoin, quel qu'il soit, même si c'est quelque chose de dramatique, un besoin de guérison, un besoin d'une solution matérielle par rapport à un besoin, par rapport à un travail, par rapport à d'autres choses. Mais nous allons regarder maintenant à tes promesses et au serment que tu as fait. Le serment que tu as fait à Abraham de le bénir. Et nous sommes enfants d'Abraham par la foi. L'alliance que tu as faite par Jésus, par le sang précieux de Jésus. Et merci pour cette route nouvelle et vivante qui est ouverte, qui nous amène dans le sanctuaire, dans le ciel même. C'est au ciel que nous voulons prier, même si nous sommes physiquement ici-bas, mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, selon ta parole. Et merci Seigneur pour la bénédiction qui vient encore davantage couler dans la vie de chacun d'entre nous. Merci pour les dons et les talents représentés ici, pour tout ce potentiel que nous avons, pour l'intelligence, pour les capacités qui viennent de toi. Nous disons notre capacité vient de Dieu. Merci Seigneur pour des idées nouvelles, des idées créatives. Merci pour des façons différentes de faire les choses. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure aussi, nous ne nous appuyons pas sur notre sagesse, mais nous comptons sur toi. Tu es la source de toute intelligence. Alléluia. Nous nous glorifions en toi et nous attendons et nous persévérons dans l'attente de tes promesses. Merci pour des paroles nouvelles et vivantes, des promesses pour aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.